9h, 11h,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez seulement avec un tour de la question que nous consacrons à des insectes qui ne cessent de nous émerveiller et d'émerveiller les chercheurs en premier lieu, les fourmis. 12 000 espèces différentes, habitantes de la Terre depuis 120 millions d'années. Elles ont survécu aux dinosaures, ces fourmis, avec un modèle d'organisation sociale exceptionnel, avec une stratégie, avec une force, avec une intelligence des situations. J'accueille à vos côtés, Julie, en studio de Bouchou, qui sont passionnés, je le sais, par les animaux notamment. Il s'agit d'Emma et de Thomas. Vous voyez que le studio aussi est ouvert. Nous sommes mercredi, il est vrai, mais tous les jours de la semaine, si vous le voulez, aux auditeurs pour venir aussi questionner nos invités. Des fourmis avec des qualités incroyables, de prodigieux pouvoirs dont on vous parle jusqu'à 11h ce matin. Oh bah allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'émotion, mon cher Bubu. Avec un nouveau livre sur les fourmis et un sens stratégique exceptionnel, il s'agit de La guerre des fourmis aux éditions Équateur Sciences. Bonjour Franck Courchamp.
Bonjour.
Et merci de venir nous parler de ces animaux sur lesquels finalement on ne sait pas grand-chose. Voilà pourquoi la littérature scientifique est intéressante aussi. Heureusement, on a des expositions, on a des conférences et on a surtout notre sens de l'observation. Et là, je m'adresse pas seulement aux enfants, mais à tous ceux que nous sommes qui aimons un peu la nature. Quand on s'accroche et quand on regarde un petit peu le cheminement des fourmis aux abords d'une fourmilière, déjà on se dit qu'il doit y avoir une organisation incroyable sous terre.
C'est vrai que rétrospectivement, je m'aperçois que j'ai passé énormément de temps à regarder les fourmis, même si je travaille dessus depuis pas tellement longtemps. Mmh. Et je n'avais pas forcément fait attention que je faisais ça, mais je pense que je ne suis pas le seul. On observe énormément ces animaux, principalement parce qu'ils ne sont pas solitaires et donc il y a des interactions entre les individus et ça, c'est assez fascinant.
Oui, je précise que vous êtes directeur de recherche à l'Université Paris-Sud et au CNRS et que vous êtes auteur de La guerre des fourmis, pas spécialiste vraiment des fourmis, mais spécialiste des invasions, on va en parler, et qu'il y a aujourd'hui des fourmis qu'on dit envahissantes. En tout cas, elles ont une organisation incroyable et c'est souvent le premier insecte qu'on rencontre dans une vie. Il y a la mouche, il y a la coccinelle, il y a l'abeille, mais c'est vrai que la fourmi nous paraît plutôt familière et sympathique.
Oui, la fourmi, elle est assez proche de l'homme, tout simplement parce que l'homme est un peu partout, et puis parce que la fourmi est un peu partout. Elle a colonisé tous les continents, à part l'Antarctique,
oui.
Et elle est dans des densités très très fortes, ce qui fait qu'on la croise assez facilement.
Elle s'est adaptée à tous les climats, elle a survécu à tous les cataclysmes, c'est
exactement,
ce que vous dites en préambule. Exactement. Elle a 120 millions d'années, cette espèce.
Ce sont des animaux qui sont vraiment extraordinaires. Qui sont extrêmement bien adaptées à toutes les situations qu'elles peuvent rencontrer. Et elles peuvent rencontrer quasiment toutes les situations puisqu'elles sont un petit peu partout.
Oui. C'est vrai qu'elles dorment jamais ?
Alors, après, ça dépend ce qu'on entend par dormir. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas tellement longtemps qui a mis à mal un petit peu la fable de La Fontaine, la fourmi très
oui.
besogneuse, parce oui. qu'on s'est aperçu qu'au contraire, dans une fourmilière, une très grande proportion des fourmis passent la plus grande partie de sa journée à ne rien faire.
Ah bon, c'est incroyable.
Et en fait, parce qu'il y a énormément de fourmis,
oui.
il y en a quelques-unes qui travaillent en permanence,
oui.
et il y en a beaucoup qui ne travaillent pas et qui sont là en fait un petit peu comme des réserves en cas de crise. Et comme elles sont là comme des réserves, en fait, elles économisent leur énergie. Et donc, la plupart des fourmis glandent exactement comme les cigales.
C'est une drôle de société. Hein,
bah, La Fontaine, voilà, on le réécrit aussi. Si on voit 1, 2, 3, 10 fourmis, il y en a combien, a priori, dans une fourmilière ?
Ah bah, ça dépend vraiment des espèces de fourmis.
On a pour des celles espèces... qu'on a en France et qu'on voit le plus souvent.
On peut avoir des centaines de milliers de fourmis dans une fourmilière. Certaines espèces, on peut avoir des millions de fourmis dedans. Donc,
ah,
ça
oui.
fait vraiment beaucoup. Quoi. C'est comme des villes. Quoi.
C'est une organisation sociale incroyable parce que la fourmi privilégie le groupe sur l'individu. C'est vrai que vous ne verrez jamais une fourmi seule, ou alors il y a eu un problème.
Des exploratrices, il y a des
même.
Scouts.
Oui,
elles ne sont pas seules vraiment, mais elles vont loin, elles vont explorer. En fait, les fourmis ont des métiers. Elles passent des stades de leur vie dans différents métiers. Et ça, c'est un petit peu différent de nous.
Oui,
au début, elles ont des métiers qui sont proches du cœur de la fourmilière. C'est là où il y a le moins de danger. Et puis, au fur et à mesure de leur vie, elles vont faire des métiers où elles sont un peu plus exposées. Donc, elles vont pouvoir être chasseuses, par exemple, ou guerrières. Et puis, vers la fin, elles vont même être scouts. Elles ont accumulé de l'expérience. Et puis, elles sont peut-être un petit peu moins indispensables à la société parce qu'elles ont déjà bien apporté à la société. Et donc, c'est peut-être un petit peu moins grave si elles disparaissent. Et donc là, celles-là, elles peuvent aller très loin.
C'est fabuleux.
On peut les voir toutes seules.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie d'une fourmi. C'est ce
non,
que
pas
vous
du
considérez
tout.
Aussi. Et des fourmis qui sont d'abord grégaires et qui mettent la survie du groupe en avant, avant leur propre vie.
Oui, oui, complètement. Et ça peut aller jusqu'au sacrifice pour le bien de la colonie.
Par exemple ?
Alors, par exemple, dans certaines espèces de fourmis qui se battent contre des termites, qui est leur ennemi héréditaire, un autre insecte social, il y a des fourmis qu'on appelle les fourmis kamikazes qui se font exploser en expulsant une espèce de colle qui va paralyser tous les ennemis lorsque la situation est perdue et qu'il peut y avoir une invasion de cette termite.
C'est génial, c'est-à-dire qu'elles sortent de la fourmilière éventuellement, elles sentent l'ennemi ou même à l'intérieur de cette fourmilière,
oui, voilà.
Elles se sacrifient
voilà.
pour la communauté.
Quand elles n'arrivent plus à contenir l'ennemi, à ce moment-là, elles vont se sacrifier pour le bien de la colonie.
Impressionnant, les prodigieux pouvoirs, entre autres des fourmis. Et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions si vous êtes très observateur de cette nature. On en parle à l'occasion de la sortie du livre « La guerre des fourmis » aux éditions Équateur Sciences, préface de Bernard Werber, dont vous avez peut-être lu la trilogie, qui sera avec nous dans quelques instants sur Europe 1. Les fourmis qui peuplent la Terre, un microcosmos vieux de 120 millions d'années. On fait le tour de la question ce matin jusqu'à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Le tour de la question, et ce matin la question c'est pourquoi les fourmis nous fascinent-elles autant, Wendy Bouchard ?
Eh bien elles ont de quoi avec leur pouvoir assez prodigieux. Alors je vous en cite un parce qu'on la connaît, cette force exceptionnelle, des fourmis capables de porter 50 ou 60 fois leur propre poids. Ça c'est déjà voilà, une spécificité liée à cet insecte de 120 millions d'années dont nous parle Franck Courchamp qui est avec nous, auteur de cette bande dessinée. Alors illustration, je le souligne, de Mathieu Huguetti parce que elles sont formidables. Beaucoup d'humour aussi dans ce livre-là qui est très très facile d'accès et qui est passionnant. Vous qui êtes directeur de recherche à l'Université Paris-Sud et au CNRS, ce livre s'intitule « La guerre des fourmis » aux éditions Équateur Sciences. Je vais vous donner deux proverbes ce matin, chers amis. Proverbe indien pour commencer. Pour la fourmi, la rosée est une inondation. Évidemment, parce qu'elles sont à la fois herculéennes et elles sont à la fois des insectes très petits, mais résistants quand même, Franck Courchamp.
Résistants et résistants à l'eau aussi. Mm-hmm. Il y a des espèces de fourmis qui vont former des radeaux, pas en prenant du matériel, mais vraiment en s'agglutinant les unes aux autres.
Ah.
Et vont pouvoir comme ça rester des semaines entières à flotter à la surface de l'eau, juste des fourmis qui vont emprisonner des petites bulles d'air dans les interstices de leur carapace, qui vont leur permettre de flotter, d'avoir la reine et les œufs au sommet, au centre, et puis de tourner pour que celles qui sont en dessous, sous l'eau, ne restent pas trop longtemps, bien qu'une fourmi puisse rester très très longtemps sous l'eau. Donc c'est dit dans
la BD. Ah, aussi ça, c'est dit dans le livre. Donc ouais. Si on passe un coup de jet pour arroser le jardin et qu'il y a des fourmis en dessous, on les noie pas.
Non, je pense pas.
Ouais,
évidemment, elles peuvent se noyer, hein, mais les fourmis, en fait, certaines espèces de fourmis peuvent rester 14 jours sous l'eau. Donc vous imaginez que c'est pas avec un petit coup de jet d'eau que ça va poser un problème. Et puis surtout, si on veut se débarrasser d'une fourmi, enfin deux fourmis qu'on a chez soi, ça sert pas à grand chose d'enlever les ouvrières, parce que tant qu'il y a la reine qui pond des œufs et qui peut pondre des milliers d'œufs tous les jours.
Oui.
Les ouvrières, elles sont remplacées. Quoi.
Et la reine, elle est dans la fourmilière en général ?
Alors, elle est dans la fourmilière, bien...
Comme la reine des abeilles ?
Voilà, bien profondément. Et puis, chez
les
fourmis...
Vous saviez dire comme la reine d'Angleterre.
la reine d'Angleterre, elle pond moins vite, en fait.
Bon. Et donc, c'est un crève-cœur, par exemple, parce que si les fourmis envahissent une salle de bain ou une cuisine, on se dit, bon, voilà, on prend un insecticide, ou il y a des produits qui pullulent dans les hypermarchés. On n'a pas envie de faire ça, et parfois, on est obligé de s'en débarrasser. Il n'y a pas de méthode pour les chasser de manière un peu plus naturelle,
il peut y avoir le fait de, par exemple, avoir moins de miettes dans sa cuisine, ou d'avoir son sucre enfermé dans une boîte hermétique.
Oui.
Parce que les fourmis, ce qu'elles viennent faire, c'est elles viennent faire le ménage. Hein, elles ramassent toute la nourriture qu'elles peuvent trouver. À partir du moment où il n'y a rien à récupérer, elles sont juste de passage, elles ne restent pas.
Ah, d'accord. Ça, c'est important de le dire aussi. Ouais. Un deuxième proverbe vient d'Afrique, Franck Courchamp. Marche sur une fourmi et 1000 autres t'attaqueront. Ça veut dire qu'on a des fourmis qui sont assez belliqueuses, pour reprendre votre titre, la guerre des fourmis ?
Alors, il y a des fourmis qui s'attaquent à à plus gros que des insectes. Mmh. Et notamment, il y a les fourmis légionnaires, qui sont des fourmis nomades. Elles n'ont pas des fourmilières. Elles se baladent en permanence et elles peuvent faire des colonnes gigantesques, des colonnes qui peuvent faire des centaines de mètres, voire des kilomètres, et qui mangent tout sur leur passage. Mais vraiment, qui mangent tout.
Ah oui.
Certaines peuplades locales, dans le temps, mettaient sur le passage de ces fourmis légionnaires leurs prisonniers attachés.
Ah, quelle horreur! Et c'est... Ah oui!
Et ça ravage ça nettoie, on retrouve un squelette à la fin assez rapidement.
Oh, non, c'est incroyable!
Et alors en fait, en biologie,
elles sont carnivores?
Oui, bien sûr.
Les fourmis légionnaires.
Il y a des fourmis qui sont granivores, des fourmis qui sont nectarivores, et puis il y a des fourmis qui
granivores,
sont carnivores.
Ça veut dire quoi?
Qui mangent des graines.
D'accord, simplement.
Et en fait, en écologie, on connaît bien leur pouvoir justement pour nettoyer les cadavres, parce que lorsque on a, par exemple, une tête de bouquetin qu'on trouve et puis qui a encore un peu de la chair et de la peau et qu'on veut avoir un beau squelette bien propre, et ben on la met sur une fourmilière et assez rapidement on a un beau squelette bien propre.
C'est impressionnant. Moi, il y en a une que j'adore, page 13. Alors, elle est plus sympa que les fourmis légionnaires qui mangent un homme. Elle s'appelle la fourmi gourde. Alors, il faut que vous nous la décriviez et surtout que vous nous décriviez son utilité, sa mission.
Alors, la fourmi gourde, elle a un gros abdomen. Donc, l'abdomen, c'est la partie du corps qui, on pourrait dire, c'est son ventre. Et elle a un abdomen qui est un peu élastique, qui peut se distendre.
Oui.
Et son rôle, c'est d'être un peu le garde-manger de la colonie. Donc elle va être dans des petites cavités spéciales de la fourmilière, elle va s'accrocher au plafond, elle va laisser pendre son abdomen distendu, mmh. Et elle va servir de gourde, elle va avoir du nectar dans cet abdomen qui va pouvoir faire vraiment plusieurs fois la taille de son abdomen normal. Et elle va nourrir les autres comme ça. Et
en cas où il y en a besoin, hein, elle est là en réserve.
Voilà, mais c'est des fourmis vivent en Australie et en Afrique, dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de réserves d'humidité. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très utile pour la fourmilière. Et puis en fait, c'est du nectar, c'est sucré. Et les gens en Australie, par exemple, s'en servent un petit peu comme des bonbons.
Ah oui.
C'est quelque chose qui, moi, j'ai jamais goûté, mais qui apparemment est.
Ils mangent vivantes les fourmis gourdes.
Voilà.
D'accord.
Ou juste sucer l'abdomen pour récupérer
l'abdomen,
tout le nectar.
Mais il n'y a pas d'orifice pour faire échapper ce nectar?
Alors, normalement, ça passe par régurgitation, par la bouche.
D'accord. Donc, elles ne se sacrifient pas pour la collectivité.
Non, non, non.
Hein, elles ne meurent pas.
Elles se sacrifient dans le sens où elles passent leur vie accrochées au plafond.
Eh oui,
c'est pas non plus une vie.
C'est une vie comme une autre. Bon, en tout cas, c'est passionnant. Franck Courchamp, on fait le tour de la question jusqu'à 11h. Nous avons Catherine Ducanet qui veut réagir, témoigner aussi de son observation de la nature de ces fourmis. Alors, on parle de fourmis de manière générique, mais il y a au moins 12 000 espèces recensées, répertoriées, Franck Courchamp. Et parmi celles-ci, des espèces envahissantes. On va y venir, justement, c'est au cœur de cet ouvrage. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Le tour de la question consacré à un tout petit insecte exceptionnel de pouvoir et d'intelligence, la fourmi. Vous connaissez le cri de la fourmi? Elle croonde.
Elle croonde?
La fourmi croonde.
Ah, mais c'est pas possible. Bah, écoutez, je suis trop naïve. La fourmi croonde, d'accord, d'accord. Franck Courchamp, est-ce que vous acceptez cette vanne de Julie?
Tout à fait, je valide.
Mais en plus, comme vous dites en général des choses très sérieuses, pour le coup, j'étais très captive de cette blague. Merci. La guerre des fourmis aux éditions Équateur Science, paru la semaine dernière, et dont on parle ce matin avec, dans un instant, le témoignage de Catherine. Nous sommes en studio aussi avec Emma, avec Thomas, avec Caro. Ils se sont levés à 4h du matin pour assister à cette émission parce qu'ils adorent la nature. Et Caroline, vous avez un petit témoignage à nous apporter. Vous habitez en Creuse, près de Guéret.
C'est quand les fourmis veulent rentrer à la maison, comme je refuse d'utiliser tout ce qui est insecticide chimique, je mets un trait de craie.
Par terre ?
Oui, la craie, la fourmi ne passe jamais sur de la craie.
Donc,
le trait n'est pas assez long, elle va faire le tour.
D'accord.
Mais sinon, les fourmis ne passeront jamais sur un trait de craie. On peut carrément les encercler.
Ça veut dire qu'il y a une marelle géante dans la chambre d'Emma et de Thomas,
<C'est ça. rire>
autour du lit notamment. On va parler du dentifrice aussi, Emmanuel qui travaille avec nous disait en bivouac en général, on met un petit peu de dentifrice auprès de la tente pour repousser un peu les fourmis. Ce sont des petits trucs que vous validez, Franck Courchamp?
Alors, pour le dentifrice, je ne sais pas si je ferais un trait de dentifrice devant ma tente parce que à tous les coups, je finirai par marcher dedans. Après, à la craie, j'imagine que ça dépend de ce que vous écrivez par terre. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent les repousser.
Ah là là, vous pensez aussi qu'elles ont un pouvoir de lecture. Cela dit, tout est possible avec les fourmis qui vous ont fasciné dès votre enfance. Bernard Werber, merci d'être avec nous quelques instants par téléphone. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Auteur de cette trilogie bien connue des fourmis, d'un livre aussi publié maintenant il y a quelques années aux éditions Albin Michel, le livre secret des fourmis. Et si vous êtes avec nous par amitié, c'est aussi parce que vous préfacez cet ouvrage sur la guerre des fourmis. Vous avez encore appris des choses sur ce peuple incroyable et que vous connaissez pourtant, Bernard.
Oui, moi j'avais écrit ça en 1991. Évidemment, depuis on a d'autres informations. Et j'ai bien aimé, évidemment, le travail qu'ils ont fait sur cette bande dessinée qui est vraiment très claire et très sympathique à lire.
Et pleine d'humour. On parlera de leur forme d'intelligence et la manière dont elles ont quasiment aussi anticipé sur tout un tas de choses dans l'agriculture, dans l'élevage. Vous avez commencé de manière très naturelle, j'allais dire, votre observation des fourmis, comme on peut le faire à 8-9 ans, Bernard. Et vous avez été très vite fasciné par ce peuple-là.
Je crois que c'est le plus petit dénominateur commun de tous les êtres humains. Un jour, ils ont lu sur un doigt une fourmi qui les a regardés, qui agitait les antennes. Et c'était la rencontre entre deux civilisations. Si ce n'est qu'à souvent, les enfants après sont tentés de détruire les villes. Et ils ne se posent pas la question, au fait, c'est quoi ces insectes qui vivent aussi nombreux dans des pyramides. Et moi, je les ai observés, je les ai mis dans des bocaux. Et j'ai fini par écrire un roman dessus. Mais je crois qu'on est tous naturellement fascinés par les fourmis parce que c'est une civilisation qui était là il y a 120 millions d'années alors que nous sommes sur Terre que depuis 3 millions d'années.
C'est ça, elles nous ont préexisté, elles ont survécu à tout. Et dans vos romans animaliers de philosophie fiction, vous avez aussi imaginé que dans une troisième humanité, finalement, nous pourrions peut-être, nous humains, vivre en fourmilière. Qu'est-ce que ça aurait donné si on met ça encore au goût du jour?
Je crois qu'on va doucement vers cette solution et ces trois tendances que nous montrent les fourmis, c'est un monde plus féminin, un monde plus solidaire et un monde plus petit. Mmh. Alors là, on n'est pas encore dans cette énergie-là, mais une fois qu'on aura fait plein de bêtises et qu'on aura aperçu les conséquences écologiques de nos bêtises, je pense qu'on deviendra plus sage et qu'on verra comme des fourmis,
oui.
C'est-à-dire vivre de manière plus solidaire, plus féminine et en détruisant moins la nature, en étant plus petit.
Oui, avec toujours de la démesure quand on parle de l'un des plus petits insectes du monde. Dans ce livre, vous apprenez par exemple qu'une colonie de fourmis en Suisse, des fourmis rousses, est estimée à plus de 100 millions d'individus. C'est aussi tous les superlatifs qui sont inversement proportionnels à la taille de la fourmi qui sont formés d'Franck Courchamp.
Oui, en fait, les fourmis, elles pourraient faire à elles seules un livre des records parce que dans quasiment toutes les catégories, il y a une espèce au moins qui va, on a parlé du poids par exemple, donc c'est un petit peu comme si vous souleviez 2500 tonnes à main nue.
Ouais. Sachant que le poids de toutes les fourmis sur la Terre pèse plus que le poids des 7,5 milliards
que
nous sommes.
Ouais. À vitesse égale, elles courent aussi vite qu'un cheval au galop, à taille égale. Elles ont aussi le record du monde de vitesse avec des mâchoires qui se referment à 230 km/h pour certaines espèces. Enfin, elles ont énormément de superlatifs comme ça qui font que ce sont des animaux vraiment absolument fascinants.
Voilà, des super-héros finalement aussi pour vous qui puisez dans tout un tas de littérature, Bernard Werber. Hein.
Oui, je crois qu'on... Il y a une phrase du roi Salomon qui dit « Suis la fourmi, elle te montre la voie de la sagesse ». Je crois qu'elle nous montre en tout cas comment réussir, comment être une espèce qui réussit, alors que notre espèce encore est une jeune espèce qui fait encore plein d'erreurs. Donc, elles sont des professeurs de nature et des professeurs de civilisation.
Et voilà, relisez le livre secret des fourmis. Merci Bernard Werber. Je vous laisse parce que ce soir, vous êtes dans une autre vie, aux Trois Baudets à Paris, pour la première d'un spectacle d'hypnose, histoire extraordinaire et expérience amusante. Voilà, c'est votre curiosité qui parle encore. On vous reconnaît bien là. Merci Bernard Werber. Et à tout de suite avec notre invité Franck Courchamp pour parler de la guerre des fourmis. Catherine, Marie-Jo, Nicole qui veulent réagir au standard. À tout de suite.
Comment les fourmis ont-elles bâti leur empire? Quels sont les mystères de ces petites bêtes qui nous entourent? On en parle avec Wendy Bouchard.
Ah oui, et Catherine, dans un instant, au 39-21, pour témoigner. Et une question que je vous livre, Franck Courchamp, vous qui avez écrit cet ouvrage, La guerre des fourmis, passionnant, c'est sous forme de BD, c'est drôle, c'est plein de faits scientifiques également, mais très accessible. Marie-Jo, elle nous écrit de Préfontaine, et elle nous dit qu'elle est envahie par les fourmis volantes fin juin, et qu'elle souhaite avoir des solutions. Alors c'est vrai qu'on a tous constaté ça, les fourmis volantes, c'est essentiellement essentiellement dans cette, à cette période déjà.
Oui.
Et c'est quoi les fourmis volantes? C'est une espèce à part?
C'est pas comme le poisson volant, c'est pas une espèce à part.
D'accord.
C'est un stade de l'année où les jeunes princes et les jeunes princesses d'une colonie ont des ailes et vont tous ensemble partir, se féconder et créer des nouvelles colonies, créer des nouvelles fourmilières.
Nouvelle génération.
Voilà. Oui. Donc en fait, c'est pas une invasion. C'est juste un stade de l'année, c'est un petit peu comme si on avait un poisson qui se mettait à pondre ou un oiseau qui se mettait à pondre, sauf qu'il y en a beaucoup. Ça ne dure pas longtemps. Et alors, la solution que je préconise pour ça, c'est d'essayer de regarder d'où elles viennent et de les observer. Mmh. Et c'est tout. Parce que ça ne va pas durer longtemps, parce que la plupart du temps, ce sont des espèces locales, donc qui sont adaptées et qui ne vont pas poser des problèmes. Et c'est fascinant de regarder ça. Donc, plutôt que d'avoir le réflexe « Ah, il y a beaucoup d'insectes, je vais essayer de tous les éliminer », comme ils ne vont pas rester, la plupart vont mourir très très vite, et ceux qui ne vont pas mourir vont aller s'enterrer pour créer une nouvelle fourmilière, autant prendre du plaisir à regarder ce spectacle qui est quand même assez fascinant.
Vous allez jeter tous vos insecticides à la fin de cette émission. Ouais.
Ça s'appelle l'essaimage. C'est la période de l'essaimage. C'est là où toutes les petits princes et toutes les petites princesses vont aller créer des nouvelles colonies et ce serait quand même dommage d'essayer d'éliminer
ça. De casser ce cycle de la vie. Mais alors, lorsqu'elles rentrent dans la fourmilière, elles ne voleront plus jamais ensuite.
Voilà, les ailes tombent et puis elles vont se mettre à pondre, créer une nouvelle colonie. Et ce qui est important de savoir, c'est que les fourmis, c'est très très important du point de vue écologique. Et donc, il ne faut pas essayer de lutter absolument contre les fourmis. On peut essayer de les empêcher d'aller chez soi en se barricadant avec du dentifrice et de la craie. Mais par contre, lorsqu'il y a un essaimage, ça veut dire que c'est dehors. Et là, il n'y a pas de raison d'aller les embêter. Elles sont chez elles.
Très important du point de vue écologique. Emma, Thomas, qui sont toujours en studio avec nous. Tu as quel âge, Emma, déjà? Appelle-moi.
7 ans.
7 ans. Et toi, Thomas?
5 ans,
7 ans, bah voilà, donc c'est le moment où vraiment on peut tout observer parce que on se met comme ça un petit peu à leur niveau. Et vous avez vu forcément, Emma, tu as vu des fourmis transporter des feuilles, des petits bouts de bois sur son dos. Tu as déjà vu ça? Tu penses que c'est pourquoi? Pour construire quelque chose? Des feuilles pour manger? Eh bien, non. Non, c'est pas forcément pour manger. Franck Courchamp va te répondre, Emma.
Alors, les feuilles, non. Les feuilles, c'est pas pour manger. Les feuilles, c'est pour cultiver. C'est pour cultiver des champignons. Donc, elles apportent des petits bouts de feuilles qu'elles ont découpés dans les arbres, dans leur fourmilière. Et là, il va y avoir un champignon microscopique, un petit peu comme les moisissures qu'on a sur le fromage qu'on mange, la croûte du fromage. Et dans des caves un petit peu humides de leur fourmilière, elles vont nourrir ce champignon grâce à des feuilles qu'elles vont mâcher et qu'elles vont leur donner, grâce aussi à beaucoup d'antibiotiques qu'elles produisent pour pas que ce milieu humide et chaud soit plein de bactéries. Mmh. Donc ce sont aussi les fourmis sont aussi des sources d'inspiration pour les antibiotiques pour l'homme. Et donc comme ça, les fourmis en fait ont inventé l'agriculture bien avant les humains.
Elles ont inventé le compost et l'agriculture. C'est génial. Ah. Et on va voir avec vous comment elles ont développé l'élevage de bétail. Alors ça vous laisse bouche bée, hein, mais on va vous le dire tout de suite, juste avant. Catherine est avec nous du Canet au 3921. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour Andy.
C'est fascinant.
Merci d'avoir pris mon appel. Ah, c'est plus que fascinant. Là, je ne me lasserai pas d'écouter. Je voudrais que l'émission ne s'arrête pas.
Ah, bah,
ça
écoutez,
fait un bien.
La bonne nouvelle,
elle
ne va pas s'arrêter.
Non. On tient l'antenne. Vous êtes très observatrice aussi de la nature et de ces fourmis en particulier, Catherine.
Oui, la nature en général, bien sûr. Et les fourmis, c'est vrai que j'adore. Quand elles arrivent, je peux les observer pendant très longtemps, ce qui étonne toujours mes amis. Mais parce que c'est très intéressant. Et alors moi, il se passe des choses étranges avec elles, mais aussi avec d'autres animaux, c'est vrai. C'est que, bon, j'ai pas envie, effectivement, de mettre des produits pour les tuer.
Oui.
Ce qui énerve un petit peu mon mari, tout le monde. Et donc, ça s'est produit deux fois. Avant de passer à une solution comme ça, je vais passer pour une folle. Hein. Je leur ai vraiment envoyé une image de ce qui pouvait leur arriver si elles ne partaient pas de ma chambre. Je leur ai vraiment dit, vous avez tout le jardin. Je vous embête pas, mais il faut pas rester dans ma chambre parce que là c'est pas possible. On va pas pouvoir vous garder là. Eh ben je ne vous mens pas. 3 heures après, il n'y en avait plus une seule dans ma chambre.
C'est pas votre mari qui est passé derrière avec l'insecticide par hasard.
Non. Mais non, il ferait pas ça.
Non.
Personne n'aurait fait ça. Mais je vous assure que alors ça marche sur les chats, les chiens, voilà. Mais les fourmis, je vous assure que... Et ma mère a fait la même chose.
Et bon, vous avez un fluide, Catherine.
Votre surnom, c'est Blanche-Neige, non?
Mais j'en sais rien, j'aurais peut-être vraiment... J'aurais peut-être vraiment dit, il faut que vous partiez, sinon vous allez mal terminer.
Bon, en tout cas, on a envie de vous croire, parce que c'est un crève-cœur, en effet, de se débarrasser de ces fourmis.
Oui, ouais. je ne peux pas tuer quel que soit l'animal, c'est pas possible. Et je voulais dire à Bernard Weber que, oui, la sagesse va venir, mais de tous les animaux. Mais pour l'instant, on est aveugle complètement. On ne veut pas voir, alors que rien que les animaux chez soi, ils nous apprennent déjà tellement de choses. C'est dans tout leur comportement. Et nous, on reste bêtes et aveugles.
Eh bien, vous savez quoi, Catherine, on va vous envoyer un exemplaire de ce livre-là, La guerre des fourmis, et vous allez aussi le lire à votre mari qui apprendra aussi des choses. Voilà.
Merci
vous donnerez
beaucoup,
votre
Wendy,
adresse.
Vraiment.
Merci beaucoup, Catherine. À bientôt.
Merci. À bientôt. Merci, à très bientôt.
Et petite pause sur Europe 1 avant de parler de quelques fourmis qu'on appelle envahissantes, c'est-à-dire qu'elles ont quitté leur territoire pour arriver dans nos écosystèmes dans lesquels elles ne sont pas forcément adaptées. On les dit invasive et elle porte bien son nom. Franck Courchamp nous en dit davantage. À tout de suite. Retrouve Wendy Bouchard pour le tour de la question, le tour des super pouvoirs des fourmis ce matin. Avec des super fourmis, parfois très familières, inoffensives pour l'homme, si on se place un peu toujours au centre du problème, et avec des espèces, Franck Courchamp, qu'on dit envahissantes. Comment on fait le distinguo entre les espèces qu'on connaît en France, qui se sont adaptées à notre écosystème, et les autres ?
Les espèces envahissantes, plus que juste les fourmis, il y a énormément d'espèces, c'est des espèces qui sont introduites par l'homme dans un autre écosystème, dans une autre région, souvent même un autre continent.
Par exemple, par container.
Voilà, avec un container de bois, de plantes ornementales, de fruits.
Oui.
Et la plupart du temps, elles ne vont pas s'implanter, mais celles qui réussissent à s'implanter vont pouvoir des fois poser des problèmes parce qu'elles ne sont pas adaptées au système. Ce qui fait que les autres ne sont pas adaptés non plus, enfin le système n'est pas adapté à elles. Et lorsqu'elles s'implantent, elles vont causer des problèmes pour l'écosystème, pour aussi les humains économiquement ou pour la santé.
Il y a une fourmi, par exemple, qui s'appelle la fourmi de feu, dont on n'aurait pas vraiment envie qu'elle s'installe en France. Elle place sous traitement médical 200 000 personnes aux États-Unis chaque année parce qu'elle provoque des allergies assez costaudes quand même. Fourmi de feu qui pique, donc.
Qui pique et qui pique très, très, très fort.
Et qui pique en groupe, hein.
Voilà, et alors c'est une fourmi qui a un petit venin. Alors, ce n'est pas une très grosse quantité, mais c'est une quantité extrêmement puissante. Ce qui fait très, très mal, ce qui peut faire mal pendant 24 heures. Mais surtout, effectivement, lorsqu'on s'assoit dans une fourmilière ou qu'on marche sur une fourmilière, ce n'est pas une fourmi qui pique, c'est énormément de fourmis. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'elle s'appelle la fourmi de feu. Il y a aussi la fourmi électrique. La fourmi électrique, elle fait aussi très très mal et c'est pour ça qu'elle s'appelle la fourmi électrique.
On ne trouve pas en France, hein, toutes ces espèces-là.
Qu'on trouve pas en France métropolitaine, qu'on trouve déjà en Nouvelle-Calédonie, qui pourrait être envahissante en France si elle était introduite. Il y a la fourmi balle de fusil. Alors là, vous imaginez que ce n'est pas un petit choc électrique ou une petite brûlure.
Elle envoie quoi ? Elle envoie vraiment des...
Alors en fait, elle mord et elle fait tellement mal... que cette douleur qui va durer, qui peut durer des jours, peut vraiment mettre en transe. Et en fait, en Amérique du Sud, elle est utilisée pour faire un rite d'initiation, de passage à l'âge adulte, où les peuplades brésiliennes, dont certains Indiens du Brésil, vont mettre plein de fourmis dans des gants tressés de feuilles, anesthésiées et avec juste la tête qui dépasse à l'intérieur. Et lorsque les fourmis se réveillent, elles ne sont vraiment pas contentes. Les jeunes hommes qui doivent donc faire ça doivent mettre leurs mains dans les gants et tenir quelques minutes comme ça. Et je peux vous dire que ça doit être l'expérience de douleur la plus intense qui existe.
Incroyable. La fourmi destroyer, elle existe aussi. Une fourmi urbaine attirée par les champs électriques et qui ronge les câbles, qui fait disjoncter les feux rouges, qui envahit les immeubles. Alors, c'est vraiment de la science-fiction parfois. Hein.
Oui, et on les trouve par exemple dans les ordinateurs. On peut ouvrir un ordinateur et il y a une véritable colonie qui est installée à l'intérieur de cet ordinateur.
Alors c'est pareil, on ne les trouve pas encore, enfin on ne les trouve pas en France. Hein.
On ne les trouve pas en France, mais elle a envahi différentes régions de la planète et elles sont très très difficiles à se débarrasser, comme la plupart des espèces envahissantes de fourmis.
Est-ce qu'elles ne sont que nuisibles ces fourmis-là
Alors en général, on ne parle pas d'espèces envahissantes lorsqu'une espèce n'est pas néfaste.
D'accord.
Pour l'écosystème ou pour les sociétés humaines.
Mmh.
On parle d'espèces exotiques. Il y a plein d'espèces exotiques partout et c'est en général pas un problème. Lorsqu'on dit qu'elle est envahissante, c'est qu'elle pose un problème. Donc, par définition, elles sont toutes problématiques.
Voilà, voilà pourquoi il faut lutter aux frontières avec la mise en quarantaine d'un certain nombre de produits, par exemple, transportés par container, pour que ces fourmis-là ne changent pas d'écosystème parce qu'elles ne pourront pas s'adapter rapidement, comme l'ont fait toutes les espèces en 120 millions d'années.
Voilà. Et en général, elles vont détruire toutes les fourmis locales, pour commencer, parce que la compétition est très importante entre les, pour récupérer du territoire, des ressources, de la nourriture. Et puis, elles vont détruire les autres animaux, elles vont s'attaquer à pas mal d'animaux, pas seulement les petits insectes, et vraiment poser des gros problèmes à l'écosystème.
Voilà pourquoi La guerre des fourmis, cet ouvrage que vous publiez il y a la semaine dernière aux éditions Équateur Science. Jacqueline nous écrit: j'habite une vieille maison, il y a 2 ans j'ai été envahie par des fourmis, je ne voulais pas moi non plus prendre de produits chimiques toxiques, et ce que j'entends ce matin confirme ce que j'ai vécu. Elle a donc fait comme Catherine, vous voyez que Catherine n'est pas seule, elle a parlé aux fourmis, manifestement ça a fonctionné. Écoutez, essayons Julie, essayons. À tout de suite, hein. Micro-ondes.
J'essaye ce week-end. Wendy Bouchard vous entraîne ce matin dans le monde fascinant des fourmis, avec leur pouvoir et leur comportement en société qui nous étonne tous, qui nous émerveille chaque jour, et pas seulement les chercheurs.
Hein. Ouais, complètement, et c'est un livre BD qui est formidable, qui est paru aux éditions Équateur Science, que je vous recommande, illustré avec beaucoup d'humour, et qui permet, Franck Courchamp, vous qui êtes auteur de cet ouvrage, spécialiste des invasions, et en particulier quand même des fourmis, directeur de recherche à l'Université Paris-Sud et au CNRS, de nous montrer très concrètement l'intérêt de la recherche scientifique. C'est très pédagogique. Vous avez une expérience notamment où vous avez placé des fourmis dans un labyrinthe.
Voilà, en fait, on a deux grands aspects dans ce livre, qui est quand même un livre qui raconte de la science, même s'il la raconte de manière humoristique. C'est tout ce qu'on connaît un petit peu des autres équipes qui ont travaillé sur les fourmis, qui nous apportent des sources d'inspiration en robotique ou pour les antibiotiques. Et puis, les expériences que nous, on a fait au laboratoire sur le comportement des fourmis, en particulier des fourmis envahissantes, qu'on a mis dans des labyrinthes, qu'on a mis ensemble deux espèces différentes pour voir comment elles se comportaient. On a fait des espèces de... On n'a pas fait des combats de fourmis, mais elles ont fini par se battre. Et on a regardé un peu leurs stratégies guerrières qui sont vraiment fascinantes parce qu'elles sont très différentes. Chaque fourmi a sa stratégie et cette stratégie évolue en fonction de qui est en face, en fonction des rapports de force, en fonction de combien elles ont de fourmis avec elles. Et on s'aperçoit que entre celle qui fait la morte, celle qui attend que les ennemis s'entretuent avant d'attaquer parce qu'elle sait qu'elle est plus faible, etc., on avait des stratégies insoupçonnée et vraiment fascinante.
Ah bah c'est fascinant. Alors attendez, au moment où je vous parle, il y a quand même quelque chose. Hein. Je vous dis, Catherine a lancé une mode. Marie-France nous écrit. Alors Catherine était au Canet. Marie-France de Nice. Dans ma cuisine, je leur ai tenu un dialogue ferme et sans détour. Je leur ai dit, soit vous partez de chez moi, soit je vais être obligée de vous supprimer. Le lendemain, il n'y avait plus de fourmis. Mais il y a quelque chose.
Mais c'est dingue cette histoire.
Mais voilà, il y a ceux qui murmurent. Elles ont des oreilles, les fourmis ?
Ah non, elles n'ont pas d'oreilles, mais elles entendent quand même. Alors, ouais. Elles communiquent de différentes façons, par produits chimiques, par son, effectivement, aussi.
Ouais.
Mais bon, je ne sais pas, peut-être qu'elles peuvent faire une start-up et puis...
Bah non, mais écoutez, il y en a trois. Il y en a trois en l'espace de quelques minutes.
Elles sont sensibles sans doute au ton qu'on emploie. On leur dit, vous partez demain. Hein, et donc, elles sont agressées puisqu'elles ne peuvent pas comprendre ce qu'on dit.
Bah, ouais. Vous pouvez demander à tous vos auditeurs d'essayer.
Trois témoignages déjà.
Trois témoignages en 10 minutes. Vous êtes combien de centaines de milliers?
Vous y croyez ou pas à cette méthode de parler?
Absolument pas, je pense que c'est un hasard. Moi, si je vous dis exactement en ce moment-là, chez vous, il va y avoir une ampoule qui va griller. Vous allez me dire, c'est vraiment le hasard. Je suis sûr que vous en avoir bien plus que trois qui, chez eux, vont avoir à cet instant précis une ampoule qui va griller.
Et là, ils vont flipper, ils vont se dire, sans Courchamp, à des pouvoirs exceptionnels.
Et parce que vous êtes très nombreux, et donc, statistiquement, il y en aura quelques-uns.
À partir de quel âge peut-on lire La guerre des fourmis, Franck?
Je pense à partir du moment où on arrive à lire.
Bah oui.
Et puis avant, on se l'a fait lire.
Je pense qu'on va offrir ce livre à Thomas et à Emma.
On a eu des enfants jusqu'à 6 ans qui nous ont dit qu'ils avaient bien apprécié.
Oui.
J'ai entendu tout à l'heure une grand-mère de 93 ans aussi qui avait adoré. Donc, je pense que la fourchette est large.
Je voudrais qu'on termine en parlant vraiment des espèces que l'on voit autour de nous régulièrement, de leur vertu pour l'écosystème, on en a parlé, et de cette histoire d'élevage de bétail. Parce que ça, c'est fabuleux aussi. Vous avez observé ces fourmis-là, et qu'est-ce que vous avez constaté, Franck?
Alors, l'élevage de bétail, c'est pas moi qui l'ai constaté, on l'a constaté depuis longtemps. Les fourmis, en fait, adorent le suc que les pucerons produisent. Et comme elles sont malines et bien organisées, en fait, plutôt que de tomber au hasard sur des pucerons, elles vont en fait faire des troupeaux de pucerons qu'elles vont défendre des prédateurs de pucerons, comme les coccinelles, par exemple. Et en fait, elles font véritablement, comme les cow-boys avec les vaches,
elles
ont vraiment des troupeaux de pucerons qu'elles protègent et qu'elles traient. Elles font de la traite des pucerons.
C'est extraordinaire.
Et elles s'enivrent avec ce suc un petit peu sucré.
Tout ça, c'est observé. Hein.
Il y a beaucoup d'études qui travaillent là-dessus. Maintenant, le côté positif des fourmis, et c'est là aussi que c'est fascinant, c'est que les fourmis sont vraiment indispensables pour les écosystèmes parce qu'elles remplissent plein de fonctions. D'abord, elles nettoient, elles enlèvent tous les cadavres de petits animaux ou de gros animaux. Elles sont aussi des prédateurs de beaucoup d'insectes qui sont des nuisibles. Elles remuent la terre, elles remuent des tonnes de terre à l'hectare. Elles participent au recyclage des nutriments. Et puis, elles dispersent les graines. Donc, c'est-à-dire que les plantes qui ne peuvent pas elles-mêmes disperser leurs graines, les fourmis les trimballent les graines.
Et c'est vrai, elles vont planter les graines ?
Alors, ce n'est pas vraiment qu'elles vont les planter, mais elles vont les amener dans leur fourmilière. Et puis, ces graines, des fois, vont pousser. Et c'est comme ça. Et en fait, il y a des chercheurs qui vont utiliser les fourmis pour réhabiliter des sites miniers, par exemple. On a des chercheurs en France qui font ça.
Génial.
Parce que pour pouvoir avoir une végétation qui pousse plus facilement, soit on plante les graines à la main, soit on demande aux petites fourmis d'aller les planter pour nous. Les fourmis sont des proies pour énormément d'espèces, d'oiseaux, de grenouilles, de reptiles, d'autres insectes, d'araignées, etc. Et donc, elles sont très utiles parce que c'est la base de la chaîne alimentaire de beaucoup d'espèces.
Voilà, donc vous saurez qu'on ne les chasse plus, qu'on essaie de plus les chasser trop aux insecticides, hein, parce qu'il suffit d'observer la colonie pour comprendre aussi le tracé, et donc éventuellement ce qui les attire chez nous pour les repousser, qu'il ne faut pas toucher aux fourmis volantes en été parce que c'est la période de reproduction, que c'est très important aussi pour cet écosystème, qu'on a des fourmis reines, chasseuses, soldates et qu'on a plus de femmes, enfin que de femelles que de mâles.
On a quasiment pas de mâles. Hein. Les mâles, c'est les princes. C'est au moment justement de l'essaimage, de la reproduction, parce que il faut bien se rendre à l'évidence. Dans une espèce, les mâles, ça sert pas forcément à grand chose d'autre qu'à la reproduction. J'exagère un petit peu, mais chez les fourmis, en tout cas, c'est le cas. Elles se sortent très bien sans les mâles pendant toute l'année. À partir du moment où elles arrivent à avoir des fécondations de reines, elles peuvent fonctionner avec que des femelles.
Donc espèce très féminine, comme le disait Bernard Werber, très solidaire. Joshua nous écrit, il a 21 ans, on n'arrivait pas à le joindre, c'est dommage. Je suis éleveur de fourmis amateur, dit-il. Enfin, c'est pas les fourmis qui sont amateurs, il est éleveur amateur. Depuis 8 ans, j'ai trouvé une reine dans ma piscine et j'avais cherché sur internet si on pouvait élever des fourmis. Et en 8 ans, je n'ai jamais lâché, ça me passionne et j'ai 20 espèces différentes aujourd'hui.
Oui, il y a pas mal de gens qui ont des espèces de fourmis et les amateurs sont en général des gens qui connaissent énormément la biologie et l'écologie des fourmis.
Mais alors, comment on les élève dans quoi ? Dans des
fourmilières artificielles. Il faut juste faire attention que ce ne soient pas des fourmis potentiellement envahissantes.
Justement.
Et que du coup, elles s'échappent et de participer donc à ces problèmes écologiques.
Julie. Il dit, j'ai trouvé une reine dans ma piscine. Comment on reconnaît une reine ?
En général, elles sont beaucoup plus grosses que les autres espèces.
Oui.
Et puis, les amateurs de fourmis, en général, reconnaissent non seulement les différentes castes, le soldat, la nourrice, la chasseuse et la reine, mais ils reconnaissent aussi les différentes espèces.
Ah ouais. Et donc, on peut contribuer aussi quelque part un peu à la science de l'observation, en tout cas, quand on est éleveur de fourmis.
Alors, il y a des systèmes, par exemple aux États-Unis, où en coopération avec les écoles, ce qu'on appelle la science participative, les élèves vont faire des expériences, par exemple, il y a des expériences de pique-nique où on va regarder toutes les espèces qui viennent lorsqu'on fait une espèce de mini pique-nique. Et ces données sont récoltées à l'état national. Et ça fait des énormes bases de données où on arrive à savoir où sont quelles espèces, à quelle quantité, etc.
Voilà ce que vous allez faire le week-end prochain, Caro, avec vos enfants, vous qui avez assisté à cette émission en studio. Les fourmis et la science participative, cet ouvrage est génial. Je vous le recommande, les amis. La guerre des fourmis aux éditions Équateur Science, signé Franck Courchamp et aux illustrations Mathieu Huguetti, qui a eu sa part, vraiment aussi.
Qui est génial.
Qui est devenu passionné aussi, j'imagine.
Oui, et puis c'est un très, très grand vulgarisateur. Il arrive à... Parce que il y a quand même de la science dans ce livre, mais en fait, on s'en rend pas compte, ça fait pas mal, quoi. Et en fait, il a beaucoup d'humour, il vulgarise très très bien et c'est super agréable de lire ce qu'il fait.
Je termine avec votre espèce préférée de fourmi, Franck Courchamp.
Je dirais que c'est la fourmi balle de fusil, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'elle est vraiment très très impressionnante, mais chacune a sa petite particularité.
Bon, vous en saurez plus en lisant cet ouvrage. Merci de votre présence, c'était... passionnant, Julie.
On a fait le tour de la question.
Et n'oubliez pas de parler aux fourmis quand vous rentrerez à la maison. Partez d'ici maintenant, ouais. Hein, sinon micro-ondes.
Hein, sinon micro-ondes.
Merci Emma d'avoir assisté à cette émission, ça t'a plu? Ouais, oui. Thomas aussi. Tu veux le livre, Thomas? Est-ce que tu veux les livres dédicacés de Franck Courchamp? Allez, ouais, carrément. Merci à tous et à demain à partir de 9h pour faire le tour de la question.
C'était Wendy Bouchard.